VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Un réfugié sud-soudanais a été tué et 12 autres personnes grièvement blessées dans le nord de l'Ouganda lors d'affrontements entre réfugiés membres de la communauté locale armés d'arcs et de machettes. Des membres de la communauté ont alors attaqué le camp de Numanzi. Un réfugié a été tué lors des affrontements de mercredi et jeudi et 12 personnes ont été grièvement blessées, principalement du côté des réfugiés. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 23 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés en 4 jours près des zones où la lutte contre l'épidémie est paralysée par l'insécurité. Eddy Sango.
10 nouveaux cas ont été enregistrés dans la seule journée de mardi à Mabalako, au nord Kivu. 6 autres ont été notifiés lundi, dont 3 médecins traditionnels, selon les comités multisectoriels de la riposte de l'épidémie. Mercredi, 3 cas ont été recensés dans le nord Kivu, dont un dans une localité Biena qui n'avait connu aucune notification depuis 85 jours. L'activité de la riposte anti-Ebola est paralysée dans 3 zones de santé, Beni, Biakato, Mangina, pour des raisons sécuritaires. Le 28 novembre, une chargée de la vaccination et 2 chauffeurs ont été tués dans une attaque à Biakato, en Ituri. Un policier a été tué dans une attaque simultanée à Mangina, dans le nord Kivu. L'OMS et l'ONG MSF ont retiré leurs équipes non-congolaises à Biakato. Ebola était en retrait. Ces attaques vont redonner de la vigueur à l'épidémie et par conséquent, plus de gens vont mourir, avait déploré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, après la double attaque de Biakato Mangina. Plus de 2210 personnes sont mortes depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018.
Les Algériens attendent aujourd'hui les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de jeudi, un scrutin marqué par une abstention record et vigoureusement rejeté par l'Irak, le mouvement de contestation populaire qui avait emporté en avril le président Abdelaziz Bouteflika. L'autorité nationale indépendante des élections, ANIE, a fait savoir que son président Mohamed Chafi annoncera les résultats du premier tour avant la mi-journée ce vendredi. Un éventuel second tour aura lieu entre le 31 décembre et le 9 janvier. Jeudi, seuls 39,93% des inscrits ont voté au premier tour, selon le président de l'ANIE, Mohamed Chafi. Le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis le 4 avril de s'emparer de la capitale libyenne, a annoncé jeudi soir une nouvelle bataille décisive, appelant ses troupes à avancer vers le centre de Tripoli. De leur côté, ses rivaux loyaux au gouvernement d'Union nationale, GNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, ont affirmé que la situation était sous contrôle et qu'ils maintenaient leur position au sud de la capitale où se concentrent les combats depuis le début de l'offensive des forces pro-Haftar. En Côte d'Ivoire, le PDCI, le parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, le FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo vont présenter des candidats à la présidentielle d'octobre 2020. Le point avec Abdourahmane Didier.
Le FPI aura un candidat en 2020, a déclaré Assoua Adou, secrétaire général du FPI. Mais le retour de Laurent Gbagbo reste la grande inconnue. Depuis 2011, son parti s'est scindé en deux. L'autre faction est dirigée par l'ancien premier ministre Pascal Affinguesson. De son côté, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikaoué, a confirmé que son parti ne va pas boycotter le scrutin. Il n'a pas avancé le nom de leur futur porte-drapeau et l'ancien président Henri Konan Bédié, âgé de 85 ans, entretient le doute. Le président Alassane Ouattara, 77 ans, lui aussi entretient le mystère. Il a récemment affirmé qu'il serait candidat si ses rivaux Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se présentaient. Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, est pour le moment le premier candidat déclaré. Après un long séjour en Europe, il a annoncé son retour pour le 22 décembre. La date butoir pour le dépôt des candidatures a été fixée à juillet 2020.
28 personnes ont été tuées jeudi lorsque 2 véhicules sont entrés en collision dans l'état de Bauchi, dans le nord du Nigeria, a déclaré aujourd'hui à l'AFP un responsable de la sécurité routière. L'accident a impliqué un autocar conduisant les membres d'une famille à une cérémonie et un camion transportant des vaches vers un marché local, a déclaré Rilwanu Suleiman, le porte-parole de la Commission nigérienne de la sécurité routière dans l'état de Bauchi. L'Espagne pressée d'accorder un permis de résidence à un migrant héros. Plus de 55 000 personnes ont déjà signé jeudi une pétition demandant à l'Espagne d'accorder un droit de résidence à un Sénégalais sans papier qui a sauvé d'un incendie un handicapé. Vainqueur ambulant de 20 ans, Gorgui Lamine Sow marchait vendredi dans la ville de Denia, sur la côte ouest, lorsqu'il a entendu des cris venant d'un immeuble proche dont émanait de la fumée noire au deuxième étage. Des photos diffusées par les médias espagnols montrent comment il a escaladé les barres métalliques de la grille d'entrée pour entrer par le balcon. Il est ensuite ressorti des flammes avec un homme sur ses épaules et l'a descendu à l'aide d'une échelle apportée par un voisin.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le président du Conseil européen a souhaité aujourd'hui que le Parlement britannique vote rapidement sur la sortie de l'Union européenne au lendemain de la reconduction de Boris Johnson. L'Union européenne est prête à négocier un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne, a poursuivi Charles Michel, qui a adressé ses félicitations au Premier ministre pour sa large victoire législative de jeudi, mais l'a aussi invité à coopérer de bonne foi avec Bruxelles. Ici, aux États-Unis, la commission judiciaire de la Chambre se prépare à approuver les articles de mise en accusation du président Donald Trump. Les démocrates majoritaires à la Chambre veulent le punir pour abus de pouvoir. Les républicains dénoncent le processus comme étant politiquement motivé. La suite de cette procédure avec Eric Manirakiza.
Les articles de mise en accusation sont toujours en discussion à la commission judiciaire de la Chambre. Les démocrates accusent le président d'abus de pouvoir et d'entrave à la marche du Congrès, Gerald Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre.
Et lorsque le président exige qu'un gouvernement étranger enquête sur ses rivaux politiques, il corrompt nos élections. Pour les pères fondateurs de ce pays, ce type de corruption est particulièrement pernicieux. Des élections libres et équitables sont le socle de notre démocratie. Si nos élections sont corrompues, tout est corrompu.
Le républicain Doug Collins, numéro 2 de la même commission, soutient le contraire.
Le gros mensonge que nous entendons ici n'est pas que la fin justifie les moyens. Le mensonge de cette mise en accusation trompeuse est que la menace est réelle, urgente et imminente. Le gros mensonge, c'est que l'opportunisme politique est honorable. L'histoire a déjà montré que c'est faux et dangereux.
À la base, aussi le débat s'inscrit dans la même ligne partisane, la démocrate Demings, députée de Floride.
Je sais que personne n'est au-dessus de la loi, mais la loi ne signifie rien. Si l'accusé, l'homme qui est entré chez vous par effraction, ou le président, peut détruire les preuves, empêcher des témoins de témoigner et refuser ouvertement de coopérer avec l'enquête, je vous demande de citer quelqu'un dans votre famille ou dans votre communauté à même d'agir ainsi.
La réponse du républicain Jim Jordan, autre député de l'Ohio.
Il ne s'agit pas de l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a dit qu'il n'a pas subi de pression, que les Ukrainiens ne savaient même pas que l'aide a été gelée au moment de l'appel. Et surtout, ils n'ont rien fait pour que l'aide soit débloquée. Il s'agit d'un seul fait fondamental. Les démocrates n'ont jamais accepté la volonté du peuple américain.
Une fois que la commission judiciaire aura approuvé les articles de mise en accusation, la Chambre, dominée par les démocrates, passera au vote en plénière la semaine prochaine. Puis le dossier sera transmis au Sénat pour un procès. Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine du Sénat, a fait savoir que ce sera le premier acte des sénateurs le mois prochain. Donald Trump a des chances d'être exonéré, car il faut la majorité de 2/3 des 100 sénateurs pour destituer le président, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis.
Et les États-Unis ont annoncé jeudi une brève pause dans les discussions à Doha avec les talibans après une attaque près d'une base aérienne américaine en Afghanistan. Cette attaque est survenue malgré la reprise samedi au Qatar des discussions entre les États-Unis et les insurgés. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous aurez avec vous Michel Henri Francisque. Bon après-midi à tous. Au revoir. We'll be right back.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.